Le journal Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Des états généraux de la justice annoncent ce matin d'Emmanuel Macron. Le président de la République prend l'initiative au moment où l'institution judiciaire est critiquée. Simon Le Baron dans un instant. Le G7 Finance espère annoncer un accord historique sur la fiscalité, une taxe internationale visant les multinationales et les géants du numérique. Inquiétude au Royaume-Uni face à une troisième vague de l'épidémie. Le nombre de contaminations repart à la hausse. Le déconfinement prévu le 21 juin prochain pourrait être reculé. Dans ce journal également, des éléphants qui sèment la panique en Chine. Le troisième tour à Roland-Garros avec Nadal, Djokovic et Federer. Et notre rendez-vous du samedi 13h avec Thomas Pesquet et son carnet de bord dans Mission Alpha. La météo instable sur la moitié est, plus calme à l'ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Les assassinats de journalistes au Mexique. Nous avions réalisé une enquête l'an dernier avec le consortium Forbidden Stories. Eh bien, ce projet vient de recevoir le prestigieux prix George Polk aux États-Unis. Nous avons donc décidé de la rediffuser.
Jacques Monin, secret d'info après ce journal. France Inter. Améliorer l'image de la justice, aboutir à une réforme. Emmanuel Macron annonce donc ce matin le lancement d'états généraux de la justice. L'Élysée souligne le profond attachement du président de la République à la séparation des pouvoirs. Emmanuel Macron a par ailleurs souhaité que le garde des Sceaux rende compte chaque année au Parlement de la politique pénale du gouvernement. Cette annonce intervient alors que l'institution judiciaire est vivement critiquée par des élus politiques et par des syndicats de policiers. Des états généraux pour apaiser les tensions, Simon Le Baron.
Une institution attaquée de toutes parts ces dernières semaines sur l'affaire Sarah Halimi ou l'agression des policiers de Viry-Châtillon. Un procès en laxisme, vieux comme la justice, mais qui a pris une toute autre tournure le 19 mai. Des milliers de policiers scandent ce jour-là devant l'Assemblée nationale des slogans hostiles à l'autorité judiciaire, avec à leur côté des politiques de droite, de gauche et surtout Gérald Darmanin. Après avoir laissé faire son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron tente donc l'apaisement en rappelant son attachement à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Et le président promet, avec ses états généraux, de s'attaquer à tous les maux de l'institution. Le manque de moyens, le rapport avec la police ou l'image dégradée de la justice dans la société. Un exercice inédit qui doit aboutir à une transformation en profondeur, insiste l'Élysée, qui sera aussi l'occasion, ajoute un proche d'Éric Dupond-Moretti, de se mettre d'accord sur les faits afin de dépassionner enfin le débat sur ce supposé laxisme. Un vœu pieux, sans doute, à l'aube d'une campagne présidentielle qui promet de laisser la part belle à la surenchère sécuritaire.
Ces états généraux n'étaient pas une demande des principaux syndicats de magistrats, indique la présidente du syndicat de la magistrature, Katia Dubreuil. Le Conseil national des barreaux, qui regroupe les 70 000 avocats français, réagit favorablement. On doit se réjouir de cette annonce, selon Xavier Roncin, premier président de la Cour d'appel de Rennes et membre de la Conférence nationale des premiers présidents. Xavier Roncin avec Julie Pietri.
C'est une grande satisfaction de voir le président de la République rappeler que les tribunaux étaient indépendants, qu'il était le gardien de l'indépendance de la justice, rappeler la séparation des pouvoirs dans une période préélectorale qui évidemment exacerbe les tensions. Quand on a entendu certains hommes politiques de tous bords critiquer la justice, d'être à la fois laxiste et d'être à la fois trop sévère, une manifestation de syndicalistes policiers qui a prétendu que le problème de la police était la justice. La justice n'est pas du tout laxiste comme on l'accuse. Elle juge les crimes qui lui sont soumis dans la mesure des moyens qui lui sont alloués dans un contexte budgétaire qui certes est meilleur que celui d'autrefois, mais il y a un rattrapage qui doit encore se poursuivre pour que la justice française ait les moyens de la justice des autres pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous tout à fait essentiel.
Xavier Roncin, premier président de la Cour d'appel de Rennes. En bref, Mimi Marchand, figure de la presse People et proche du couple Macron, a été présentée à un juge d'instruction. Elle a été mise en examen pour subornation de témoins dans l'affaire du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, selon son avocate. Mimi Marchand a également été mise en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée. Elle a été placée sous contrôle judiciaire. Mimi Marchand conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Dernière tractation à Londres lors du G7 Finance pour mettre en place une taxe internationale et un taux minimum pour les plus grandes multinationales, dont les géants du numérique. Les ministres des Finances des 7 grands pays industrialisés ont affiché leur volonté de parvenir à cette grande réforme fiscale. Selon l'OCDE, les stratégies d'optimisation et d'évasion fiscale des grandes entreprises permettent de soustraire chaque année 200 milliards de dollars des caisses des services fiscaux du monde entier. Yann Brossa, adjoint communiste à la mairie de Paris, estime ce matin que le G7 fait preuve de bon sens.
Dans une société où les inégalités, où les injustices croissent à ce point-là, tout le monde voit bien qu'on a besoin de partage, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on ait une infime minorité de gens, de grosses multinationales, qui s'enrichissent considérablement, alors que dans le même temps, autant de gens souffrent le martyre. Et donc, bien sûr, on a besoin de partager et on a besoin de mettre à contribution ces grosses multinationales, bien sûr.
Mais c'est la gauche américaine qui se réveille.
Eh bien, comme quoi, l'espoir n'est pas interdit. Et ça montre en tout cas que ces idées-là, ces idées de justice sociale, elles progressent dans notre société au point que même les Américains finissent par y être sensibles. Il faut que la France montre l'exemple, parce qu'effectivement, on ne peut pas accepter d'avoir des petites boîtes françaises qui payent leur impôt rubis sur l'ongle et dans le même temps, de grosses multinationales qui se débrouillent, elles, pour ne jamais payer d'impôts. C'est une forme de distorsion de concurrence qui n'est pas acceptable.
Yann Brossa avec Myriam Ankawa. Au Royaume-Uni, toujours une inquiétude face à un risque de troisième vague, avec une hausse du nombre de cas de contamination liés au variant Delta, le nouveau nom du variant indien. Mardi dernier, le Royaume-Uni annonçait une excellente nouvelle. Le pays n'avait enregistré aucun mort lié au coronavirus. Aujourd'hui, quatre jours après, le variant Delta pourrait conduire le Premier ministre Boris Johnson à reculer le déconfinement prévu le 21 juin prochain avec la levée des dernières restrictions pour faire face aux variants. La campagne vaccinale au Royaume-Uni va encore s'accélérer. Maxence Penny à Londres pour France Inter.
Les Britanniques vont-ils de nouveau devoir sacrifier leurs vacances à cause d'une mutation ? L'hiver dernier, Boris Johnson les avait déjà privés des fêtes de Noël face à la propagation du variant anglais. Ce printemps, le Premier ministre n'exclut pas de repousser l'ultime étape du déconfinement à cause du variant indien. Au micro de la BBC ce matin, l'un des responsables des services de santé indiquait que la distanciation sociale devrait certainement être maintenue cet été. Certains scientifiques déplorent par ailleurs que trop peu de Britanniques aient reçu leurs deux doses. Elles sont pour le moment espacées de 8 à 12 semaines afin que le plus grand nombre bénéficie d'une première injection. Pour d'autres, ce sont désormais les plus jeunes qu'il faut immuniser d'urgence, alors que le vaccin Pfizer vient tout juste d'être approuvé pour les plus de 12 ans outre-Manche. Si la vaccination n'est ouverte qu'aux plus de 30 ans à l'heure actuelle au niveau national, certaines villes anglaises, durement impactées, ont déjà pris la liberté de vacciner les plus de 18 ans et espèrent pouvoir en faire autant avec les enfants. Londres, Maxence Peigné, France Inter.
Et ce variant indien, ce variant Delta, également détecté en France. 29 nouveaux cas ont été signalés ce matin dans les Landes, portant à 31 le nombre de cas total connu dans ce département. Prisonnière depuis 2 ans en Iran, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkha, arrêtée à Téhéran, est aujourd'hui toujours privée de liberté. Elle a été condamnée l'an dernier à 5 ans de prison pour collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale, otage parmi d'autres du régime iranien selon son comité de soutien. L'Iran détient plus d'une douzaine d'occidentaux en prison ou en résidence surveillée. Cet après-midi, le portrait de Fariba Adelkha sera dressé sur la façade de la mairie de Paris. Marielle Debosse, chercheuse à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense et membre du comité de soutien de Fariba Adelkha avec Valérie Crova.
Depuis son arrestation le 5 juin 2019, il y a 2 ans, elle a été emprisonnée à Evin, qui est une des prisons de Téhéran. Elle a obtenu, il y a quelques mois, de passer en résidence surveillée. La situation reste quand même très difficile pour elle, parce que ça veut dire qu'elle a un bracelet électronique en permanence, qu'elle ne peut pas aller à plus de 300 mètres de son domicile. Et surtout, elle est toujours contrôlée par des gardiens de la Révolution qui viennent vérifier qu'elle est bien chez elle. Donc il y a une pression psychologique énorme sur ses épaules et on a un stade où on peut parler de torture psychologique. Que veulent les Iraniens en retenant Fariba Adelra? Est-ce qu'ils souhaitent faire pression sur la France? Est-ce qu'elle est prise aussi dans des jeux politiques internes? Il est difficile de se prononcer en tant que comité de soutien, mais ce qui est sûr, c'est que les Iraniens veulent quelque chose en échange de sa libération et qu'elle est prise dans des jeux politiques et dans des jeux diplomatiques qui n'ont rien à voir avec qui elle est ni avec ses travaux.
Marielle Debosse, je reviens un instant sur l'information que nous vous donnions sur les tractations à Londres et le G7 Finance pour mettre en place une taxe internationale. Eh bien, le G7 Finance s'engage à l'instant sur un taux mondial pour l'impôt sur les sociétés d'au moins 15%. Il y a 40 ans, les premiers cas d'une nouvelle maladie inconnue étaient identifiés. Le départ d'une épidémie sans précédent dans le monde avec les premiers malades du sida aux États-Unis. Aujourd'hui, 40 ans après, l'Afrique du Sud est le pays qui compte le plus de personnes séropositives au monde avec 7,5 millions de malades. Un tiers de ces personnes atteintes du sida ne prend pas de traitement antirétroviral, pourtant gratuit et accessible dans tout le pays. Il faut parfois attendre une journée entière dans certains centres de santé saturés pour pouvoir retirer son traitement, ce qui décourage une partie des patients. Pour réduire cette attente, les distributeurs de médicaments ont été installés dans les quartiers populaires. Le premier du genre a vu le jour dans le township d'Alexandra, au nord de Johannesburg. Reportage Romain Chanson.
En sortant du travail, Chepiso se rend au distributeur de médicaments. Plus tôt dans la semaine, un SMS lui avait rappelé qu'il était temps de renouveler son traitement antirétroviral. La course lui prendra une poignée de minutes.
It's fast.
C'est rapide, on ne perd pas de temps, contrairement aux cliniques. Quand vous récupérez vos médicaments là-bas, vous devez faire la queue pendant très longtemps et à la fin, vous risquez de ne même pas pouvoir aller travailler tellement vous avez perdu du temps alors que vous êtes venu tôt le matin.
À travers une machine qui ressemble à un distributeur de banque, Chepiso s'adresse à un pharmacien qui apparaît à l'écran. Depuis un call center, le pharmacien vérifie son identité et son ordonnance. Puis, c'est un robot qui se charge de préparer la commande parmi une armoire à pharmacie qui répond à toutes les maladies chroniques, explique le pharmacien Tafi Chinamura.
Tout le monde peut venir retirer les médicaments ici. Cette diversité de clients permet d'empêcher toute forme de discrimination et de ne pas identifier ce bâtiment comme un centre pour séropositifs.
L'ONG Right to Care, qui dirige ses distributeurs de pharmacie, a ouvert 6 établissements à travers l'Afrique du Sud. 70% des médicaments retirés sont des antirétroviraux. Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
À l'étranger encore, en Chine, où des éléphants sèment la panique. Un troupeau d'une quinzaine de pachydermes a entrepris une migration de plusieurs centaines de kilomètres, traversant villes et autoroutes, saccageant les récoltes et les champs de maïs. Les zoologues ne comprennent pas ce qui a pu amener ce troupeau d'éléphants à quitter sa réserve sur une distance aussi longue. Le voyage des éléphants inquiète les populations. Le troupeau est surveillé par drone. Pékin, Zifan Yu.
Les Chinois sont tenus en haleine par le périple de ces 15 éléphants qui ont quitté leur réserve naturelle de Sichuanbanna dans le sud de la province du Yunnan, frontalière du Laos et de la Birmanie. Ils ont déjà parcouru plus de 600 km à travers la forêt et des routes de campagne et arpentent désormais les artères de la mégalopole de Kunming, capitale de la province. Les autorités locales restent, elles, sur leur garde. Plus de 600 policiers ont été déployés et des drones sont chargés de surveiller les déplacements de la petite troupe. Les 7 millions d'habitants de la mégalopole ont reçu ordre de rester cloîtrés chez eux dans certains quartiers et de ne surtout pas laisser traîner de nourriture qui pourrait attirer les éléphants. Jusqu'ici, aucun accident n'a été rapporté alors que ces éléphants sont les plus gros animaux terrestres du continent et peuvent peser jusqu'à 5 tonnes. Le troupeau entend bien laisser une trace de son pèlerinage. Jusqu'ici, ils auraient causé pour près d'1 million d'euros de dégâts et saccagé plusieurs dizaines d'hectares de culture. On ne sait pas encore pourquoi ils ont quitté leur habitat naturel, mais une des raisons déjà avancées pourrait être l'activité humaine qui a empiré sur le territoire de ces éléphants. Pékin, Zifanou, France Inter.
Tennis à Roland-Garros, c'est notre rendez-vous en terre battue suite et fin du troisième tour avec aujourd'hui en lice les trois grands cracks de la compétition. Novak Djokovic, Rafael Nadal et également Roger Federer face à l'Allemand Dominique Kupfer. Match en nocturne à 21h et à huis clos. En direct de Roland-Garros, on retrouve Fabrice Abgral. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Sans public, en nocturne, Roger Federer va vivre une expérience qu'il n'a jamais connue de toute sa carrière.
Oui, c'est vrai. De
tous les joueurs du circuit professionnel, Roger Federer est le seul, pour l'instant, le seul joueur à ne pas avoir encore joué un match à huis clos, alors que c'est la règle depuis que le tennis a été placé sous bulle en mars de l'année dernière. Alors pourquoi ? Pourquoi Federer est l'exception qui confirme la règle ? Tout simplement parce que le Suisse s'est blessé au genou en janvier de l'année dernière, juste après l'Open d'Australie. C'était donc juste avant la pandémie. Federer, une fois soigné, a repris la compétition 13 mois plus tard, en mars dernier à Doha, où là, il y avait du public dans les tribunes. Il a disputé son deuxième tournoi il y a quelques semaines à Genève, où là encore, la jauge était fixée à 100 spectateurs. Mais ce soir, rien de tout ça. Ce soir, Federer va découvrir le huis clos et va vivre une expérience inédite. Pas un bruit, pas un applaudissement, pas un encouragement, rien si ce n'est le bruit des balles. Reste à savoir si ça va le perturber, c'est peu probable. Encore que, il ne faut rien exclure évidemment. Après, il faut espérer qu'il gagne, parce que en cas de défaite, ce pourrait être le dernier match à Roland-Garros de Roger Federer, qui fêtera ses 40 ans en août prochain. Et si c'est le cas, ce serait, croyez-moi, une bien triste sortie pour lui, la légende du tennis.
Fabrice Abgrall en direct de la Porte d'Auteuil. 4, 3, 2, 1, lift off. Une virgule aérienne pour notre rendez-vous du samedi 13h avec Thomas Pesquet, l'astronaute actuellement dans la Station Spatiale Internationale pour une mission de 6 mois. Nous livre chaque semaine dans Mission Alpha son journal de bord. Et cette semaine, Sophie Becherel a été chargée pour Thomas Pesquet.
Oui, un emploi du temps bien rempli avec la réparation du vélo de la station, des expériences scientifiques et une première sortie dans l'espace. Il est prévu au cours de ces 6 mois 4 EVA, comme on dit en anglais, EVA en français, sortie extra-véhiculaire. La première a donc été réalisée par 2 cosmonautes russes, coéquipiers de Thomas. Piotr et Oleg ont commencé à préparer l'arrivée d'un nouveau module programmé cet été. Ce matin, un vaisseau ravitailleur de SpaceX, le 22e, s'est amarré à l'ISS avec 3,3 tonnes de fret pour l'équipage, du matériel scientifique, de la nourriture, des vêtements et les nouveaux panneaux solaires de la station qu'il va falloir installer prochainement. Il va donc falloir décharger tout ça et puis continuer les expériences scientifiques. Vous n'avez pas l'air de chômer ces temps-ci, Thomas.
Oui, le mois de juin. Alors là, en fait, on a eu un départ assez relax, on va dire. On bosse quand même 12 heures par jour, 12h30 en comptant le sport. Mais au final, c'était assez relax parce que là, avec SpaceX 22, donc le cargo qui arrive, pendant le temps où il va être docké, entre le moment où il est là et le moment où il redescend au sol, eh ben, il va falloir réaliser 2 EVA, il va falloir faire tout le programme scientifique parce qu'il y a plein d'échantillons qui doivent revenir au sol et qui donc évidemment sont liés au retour du cargo. Donc ça veut dire qu'on va avoir 30 jours pour vraiment tout faire, ça va aller très 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 vite. Suite à ça, ben, ça va continuer parce qu'on a un nouveau SpaceX 23, évidemment, on a un nouveau module russe, et moi je serai impliqué dans les opérations de sa mise à poste et son fonctionnement au mois de juillet. On a un nouveau cargo Cygnus au mois de juillet, donc la prochaine fois qu'on aura l'occasion de lever le nez du guidon, il se peut très bien que l'été soit passé, ouais, et qu'on soit déjà en septembre.
Vous accueillez donc un vaisseau ravitailleur de SpaceX aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous attendez à trouver dedans ? Est-ce qu'il y aura par exemple des surprises ?
Il y a toujours 2 parties. Il y a un peu la cargaison non pressurisée, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il reste à l'extérieur, notamment les nouveaux panneaux solaires dont on a besoin pour les installer dans pas si longtemps. Et puis la partie pressurisée qui, elle, on va ouvrir le sas et la rentrer à l'intérieur de la station. Beaucoup d'expériences scientifiques, du matériel dont on a besoin pour notre programme de recherche, et puis du ravitaillement, nourriture, vêtements, des trucs assez prosaïques, assez terre à terre. On espère qu'on aura des petits cadeaux. Oui, il y a un réfrigérateur qui est connecté sur SpaceX Cargo, donc je sais pas, peut-être qu'on aura des choses dedans, on espère, des fruits frais. En général, on a des pommes, des oranges, parfois des oignons. c'est bon pour la santé, c'est pas super bon à manger cru, mais les Russes aiment bien, je sais pas pourquoi. Et puis voilà, avec un peu de chance, on aura du fromage, mais je sais pas, je vous dirai après l'ouverture.
2 de vos coéquipiers russes ont fait donc une sortie dans l'espace cette semaine, vêtus d'un scaphandre pressurisé bien sûr, mais y a-t-il des différences entre les combinaisons spatiales russes et américaines ?
Les combinaisons russes, elles sont différentes, oui. La grosse différence, j'ai envie de dire, c'est que la combinaison russe, elle est à entrer par l'arrière en fait. C'est un petit peu bizarre, le grand sac à dos qui fait partie intégrante de la combinaison, dans lequel il y a justement tous ces systèmes, les bouteilles d'oxygène, le système qui enlève le CO2 qu'on expire de l'atmosphère, évidemment, le réchauffage, la radio, les petits propulseurs, etc. Tout ça, c'est dans le sac à dos. Et bien en fait, il s'ouvre, il est sur une charnière, hein, il s'ouvre et on enfile la combinaison en rentrant dedans par l'arrière. On met d'abord les pieds, ensuite hop, un bras et puis l'autre. Puis on a un petit levier pour fermer la porte derrière soi, c'est un peu sympa. Alors que la combinaison américaine, ben, elle est en plusieurs morceaux en fait. On enfile le haut, ensuite on met le bas, ensuite on met les gants, etc. Ça, c'est une grosse différence. La différence aussi, c'est qu'elle est moins adaptable. En fait, il y a une seule taille de torse. La combinaison américaine, il y a trois tailles de torse. Donc voilà, on va dire, la combinaison russe, elle est plus facile à mettre en œuvre, mais elle demande moins de réglages, moins de précision. Elle est prête plus vite, elle est plus robuste, mais par contre, elle est moins adaptable. En fait, la combinaison américaine, c'est un peu la Ferrari, la voiture de course. La combinaison russe, c'est un peu le 4x4. Mais les deux, moi, pour avoir fait l'entraînement dans les deux marchent très bien.
Mission Alpha, le journal de bord de Thomas Pesquet, est retrouvé sur franceinter.fr. On termine avec la prescription culturelle du week-end et en musique, avec le duo Lilywood and the Prick, formé par la chanteuse Nili Adida et le guitariste Benjamin Coteau. Repérés sur les réseaux sociaux, ils connaissent un succès fulgurant et après 5 ans d'absence, ils reviennent avec un nouveau disque pop et enlevé Mathieu Culeron.
Après l'immense succès mondial de leur tube Prayer and Sea, remixé par Robin Schulz, le duo Lilywood and the Prick est de retour avec un nouveau disque clairement pop, une démarche totalement décomplexée, comme le confie Nili, la chanteuse.
Quand t'as pas fait de musique ensemble depuis 5 ans et que tu te retrouves et qu'on est quand même l'un pour l'autre des personnes extrêmement importantes dans la création, ne serait-ce qu'un morceau comme ça, piano-voix, qu'on écrit une après-midi, ça nous a fait ressentir des choses très fortes parce que on s'était manqué en fait, même artistiquement.
Des chansons légères qui abordent des thèmes sérieux, le viol et plus généralement le combat des femmes, d'Adèle Haenel à Aliénor d'Aquitaine, Benjamin, guitariste du groupe.
On s'améliore ou en tout cas on ose plus de choses comme disait Nili tout à l'heure et peut-être aussi d'une façon un peu plus décomplexée. C'est ce qui nous permet du coup d'essayer des instruments, des sons, des couleurs ou d'aller rechercher des influences un peu plus lointaines.
C'est la première fois qu'on met 2 ans à faire un album et finalement c'est génial de le prendre et si on prend ce temps... Parce qu'on ressent plus cette urgence aussi.
Most Anything, dernier album de Lilywood and the Prick, de la pop dansante taillée pour la FM. Un duo qui avait besoin de se rassembler pour retrouver l'inspiration.
Most Anything, le nouvel album de Lilywood and the Prick. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
L'activité orageuse décline fortement malgré la persistance aujourd'hui d'un temps instable avec averse du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Bourgogne. Sur la façade atlantique et le bassin méditerranéen, le soleil va l'emporter. Tandis que sur la Corse, près des Pyrénées et du centre au nord de la Seine, la grisaille dense et parfois humide de la matinée mettra plus de temps avant de s'éclaircir. Il est prévu 18 degrés cet après-midi près de la Manche, un maximum de 30 en basse vallée du Rhône, contre 19 à Lille, 22 à Nantes, Lyon et Paris, 23 sur l'Alsace et la Bretagne et 24 degrés près de la Garonne. Demain, les valeurs ne vont pas beaucoup monter malgré les éclaircies sur la plupart des régions, sauf sur la Bretagne où l'ambiance sera maussade et on notera des averses possibles et parfois parsemées de coups de tonnerre sur les massifs de l'Est.
Jean-Michel Glinski de Météo France.